Amen. Bonjour à tous. C'est vrai que dans la prière de Jean-François, quand la parole est devant nous, c'est important d'être dans cette attitude de se laisser visiter, parce que quelquefois, le Seigneur parle de différentes façons, mais il y a des mots qui nous dérangent un petit peu, qui viennent nous titiller. Et puis, en voilà un qui m'a, comment dire, interpellé. C'est le mot participant. Et je dois dire que je l'ai forcément lu des quantités de fois. Mais alors là, il ne quittait pas ma tête. Qu'est-ce que veut dire ce mot participant? Et donc, bien sûr, vous pouvez avoir vos idées sur ce que ça veut dire être un participant. Mais là, c'est souvent accompagné de rendu participant. C'est-à-dire qu'il y a plus que notre intention de participer. Il y a quelque chose qui s'est passé dans notre vie qui nous a rendu participants. Nous ne sommes plus seuls. Amen. Et donc, rendu participant, on l'a dans deux fois, Romains 11 et Hébreux 3. Et pour moi, ça traduit un nouvel état, une nouvelle disposition, une nouvelle situation qui est dans notre vie. Quelque chose a changé dans notre vie. Et quand je cherchais dans la Bible ce mot, participant, l'intitulé du petit chapitre dans lequel il y avait tous le terme participant qui était repris. Les croyants en Christ sont appelés participants. Tiens, nous sommes appelés participants. Et parce que maintenant, quand on a donné notre vie au Seigneur Jésus, nous sommes devenus participants avec lui. Il nous a rendus participants. Et ça m'a renvoyé aussi à deux autres mots qui est la ressemblance et l'appartenance. Et donc, je vais vous parler de ça. Et donc, alors bien sûr, participant, il y avait le baron Pierre de Coubertin qui avait dit, lorsqu'il a renouvelé les Jeux Olympiques, l'important, c'est de participer. Donc, on connaît ça. Et puis, donc oui, c'est important de participer. Mais c'est encore plus important quand on a reçu dans notre cœur qu'on est bien à notre place. Et puis il y a aussi ce qui vient dans l'entête des comptes rendus de réunion. Il y a les participants, les excusés et puis les absents. Donc on peut dire les présents aussi, mais les participants, ça veut dire quelque chose, quoi. Donc, et dans ce fameux compte rendu de réunion, moi, ça m'a fait penser donc au festin des noces. Donc, c'est dans Matthieu 22. Donc, Jésus leur parla de nouveau en parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs pour rappeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant : Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais négligeant l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-ci à son commerce. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya son armée, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir les convives. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et on pourrait dire beaucoup d'invités, mais peu de participants. Et bien sûr, pour participer, il y a quelque chose qui était nécessaire. C'était un habit de noces. Et beaucoup recevaient l'invitation, parce qu'elle était publiée largement. Mais tous ne la recevaient pas dans leur cœur comme l'invitation du roi. Et là, je repense tellement à cette histoire du fils prodigue, combien de fois ça m'a visité cette histoire. Je repense au Père miséricordieux et aux fils et aux filles prodigues que nous sommes. Et dans Luc 15, 21, le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Il y a cette conviction de péché. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez-lui la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales pour ses pieds. » À partir du moment où il y a eu la conviction de péché, le Saint-Esprit a visité le cœur de cet homme-là. Il avait visité avant, il a pris la décision de revenir vers le père et son courage. Et le père l'a accueilli, a entendu la confession, l'a pardonné et l'a revêtu de la nouvelle robe. Et c'est bien sûr notre témoignage quand nous venons au Seigneur. Notre péché devient tellement clair devant nos yeux, on ne peut plus fuir. Comme je disais au début, je ne peux plus fuir, je suis responsable. Et ce terme de responsabilité revenait en permanence dans mon cœur. C'est plus la peine de fuir, je suis responsable. Et donc de là, confesser le péché, que tout ce que le Seigneur me montrait, je lui apportais et je recevais sa grâce. Et donc ça, c'est une des conditions pour devenir participant, être accueilli au banquet des noces. Et donc je suis ce que j'ai préparé, et donc nous devenons participants. J'ai mis deux, on participe à, on participe par. Et donc il y a cette image d'une greffe. On a utilisé déjà. Celle-ci est en fait la greffe la plus simple qui existe. C'est un tout petit morceau de bois qui est intéressant parce que c'est une variété de pommes intéressantes, si ce sont des pommes, si ce sont des poires, etc. Et donc elle est fendue donc en biais, en biseau. Et la partie vivante donc qui sort des racines de tronc, elle aussi est taillée en biseau. C'est la greffe anglaise. Merci nos amis anglais, parce que c'est la plus simple. Elle est vraiment efficace quand elle est bien faite. Et donc, c'est une greffe, on va dire. La nouvelle naissance est une greffe que nous vivons. Nous sommes associés au pied qui nous porte. Associés. Et ce terme rendu participant, là, vraiment, prend tout son sens parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes indépendants, nous sommes associés au corps de Christ. Galates 2:20, celui-là, vous le connaissez parce que je vous le dis presque à chaque fois. Je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Amen. Et donc, nous devenons participants associés à la mission du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux sur cette terre que de servir le roi des rois ? Le Seigneur m'a rappelé ça il y a quelques semaines. M'a encouragé. Et on sait que c'est l'encouragement de Dieu parce que ça vient tellement avec amour, avec toute la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu peux attendre de mieux sur cette vie que de servir le roi des rois? Il n'y a rien de meilleur. Et donc, nous servons d'un même cœur, une même mission. Et bien sûr, nous restons des hommes et des femmes très ordinaires. On peut dire, oui. C'est sûr qu'on est très ordinaire, mais servant, appartenant à un Dieu extraordinaire. Devenons des christocentriques. Il n'y a plus que Christ au centre. Un même cœur, participant à la même vie. La même vie que Jésus, de la même vie que Jésus, par la vie de Jésus. Et on va poursuivre dans Hébreux 3. Alors ici, au premier verset, on a participé, mais vous trouvez d'autres prendre part et vous trouvez ce terme de façon très répandue dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi, frères saints, qui participez à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, Jésus. Déjà, ce premier verset, considérez. C'est vrai qu'il y a des mots qui, quoi ? Il nous attire tout de suite, qui nous dit « considérer ». C'est-à-dire que le Seigneur nous fait « considérer », il attire notre regard, il attire notre attention. Considérer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ouvrez vos oreilles. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Considérez Jésus, fixez votre regard sur lui. Arrêtez-vous à la personne de Jésus. L'auteur de notre foi, celui qui nous a invités et celui qui nous a changés. Avec l'invitation, vient ce changement de cœur pour nous rendre dignes de ce grand repas des noces. Il a été fidèle à celui qui l'avait établi, comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. En effet, il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit la maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Et donc, je poursuis, car toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage à ce qui serait annoncé. Mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance d'où nous nous glorifions. Il y a ce rappel. Si nous retenons jusqu'à la fin, nous sommes sa maison, le temple du Saint-Esprit. Bien sûr, aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Ma chérie me demandait, sur quoi tu vas prêcher? Est-ce que tu prêches sur la Pentecôte? Je lui dis non, ce n'était pas le sujet principal, mais c'est toujours le sujet principal. Parce que je ne voudrais pas parler sans le Saint-Esprit. Jamais, jamais, jamais. Enfin, je préférais que le Seigneur me ferme la bouche. Et donc le temple du Saint-Esprit, une maison où le Seigneur se plaît, malgré notre état de faiblesse. Et je lisais il y a quelque temps aussi cette notion de vase et de la fragilité du vase. Vous voyez ces pots de fleurs tout ordinaires là. J'aurais dû en amener un aujourd'hui. Qui sont en argile. Mais vous donnez un petit coup dessus, pom, il est ébréché. Il passe un hiver dehors, comme c'est poreux, un petit coup de gel, paf, il éclate aussi. Et donc, nous sommes des vases très ordinaires comme ça. Mais le Seigneur savait que nous étions des vases très, très ordinaires et d'une très grande fragilité. Il le savait, il le sait. Mais il nous a choisis pour être ces vases. Amen. Je continue. Mais Christ est comme un fils sur sa maison, je reprends, nous sommes sa maison si nous retenons fermement jusqu'à la fin. L'assurance et l'espérance dont nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération et je dis, leur cœur s'égare toujours. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire, aujourd'hui, afin que aucun de vous s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre première assurance. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Vous lisez comme moi, je pense. Vous pourrez relire ce passage-là. Je ne vais pas le commenter complètement. Laissez le Seigneur commenter ce passage dans vos cœurs. Et comme je disais au début, vous comprendrez la responsabilité qu'on a, le privilège qu'on a d'avoir reçu Christ en nous. Le Seigneur a déposé quelque chose de très précieux en nous. Et donc ça se termine bien sûr, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y rentrer à cause de leur incrédulité. Et on va passer à un autre passage. En fait, je vais un petit peu vite aussi, parce que je me suis rendu compte que j'avais préparé à manger pour au moins 2 jours. Donc si vous voulez venir demain, c'est possible aussi, hein. Mais on va essayer de tout faire aujourd'hui. Luc 17, qui est donc là dans la version parole vivante, où il y a ce fameux passage, Seigneur, augmente notre foi, fortifie notre foi. Donc voilà la traduction de parole vivante. Verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, fortifie notre foi. Fortifiez votre foi, dit le Seigneur. Si vraiment vous aviez la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol, va te transplanter dans la mer, immédiatement il vous obéirait. Incroyable. Incroyable. Est-ce que c'est la nature d'un mûrier que de pousser dans la mer? Il y a quelque chose de surnaturel, même de se déplacer lui-même. Et pourtant le Seigneur compare notre foi à un grain de moutarde. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ai apporté des grains de moutarde. Vous n'êtes peut-être pas jardinier, vous n'êtes peut-être pas à la campagne. Pour voir un petit peu ce que c'est. Mais cette demande des apôtres, pour moi, était légitime. Vous n'avez pas fait cette prière peut-être? Moi, je l'ai faite. Pour moi, elle est légitime. Et c'est vrai que Jésus a une réponse surprenante. Et peut-être qu'il était déçu par le peu de progrès que les apôtres faisaient depuis qu'ils étaient avec lui. Et c'était comme un reproche d'incrédulité. Nous venons de lire ça dans Hébreux 3. Et la petite graine de moutarde. Alors à l'époque, Jésus disait que c'était la plus petite. Et on en trouve des très très petites aujourd'hui. Mais la moutarde d'aujourd'hui et celle d'il y a 2000 ans, à mon avis, ce n'était pas tout à fait la même. Je vais faire circuler. Laurent devant sait ce que c'est la moutarde. Tu peux faire circuler et voir que chacun puisse voir ce que c'est qu'un grain de moutarde. Je m'excuse, hein, si vous vouliez voir un grain de moutarde, on pourra voir ça tout à l'heure. Mais le grain de moutarde, il est tout petit quand même, tout rond. Et il y a quelque chose que je me suis rendu compte. Si je serre les doigts, je ne vois plus rien. Et ça m'a parlé, parce que si il parlait d'endurcir notre cœur, c'est un petit peu ça. Je peux oublier que le Seigneur m'a donné, même si c'est l'équivalent d'un grain de moutarde, je le veux bien. Parce que ce petit grain de moutarde, si c'est un grain de diamant pur, mais la foi, c'est bien plus qu'un grain de diamant pur. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec un grain de diamant pur? Beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous a dit que ça, tout petit comme c'est un grain de foi 100% attesté, certifié par les plus grands organismes du monde, que c'est de la foi pure qu'il a déposée dans notre cœur. Mais je peux l'oublier si je le mets dans ma poche. Je ne suis pas sûr de le retrouver. C'est-à-dire, bon, c'est bien là. À la semaine prochaine. Au revoir les frères. Mais le Seigneur veut rappeler tous les jours qu'on a ce petit grain de moutarde de foi et qu'il est suffisant pour dire à ce mûrier, transplante-toi dans la mer. Bon, je ne ferai pas une prière comme ça parce que j'ai certaines limites botaniques et puis maintenant ça marche pas, Seigneur. Mais pour les besoins de chaque jour, quand on prie tout simplement, prier avec foi, et ce petit grain de foi, il est suffisant, plus que suffisant, parce qu'il contient toute la foi de Jésus, toute la foi divine. Amen. Et donc je crois absolument que ce n'était pas un reproche, c'était un encouragement. Vous croyez que vous avez peu, mais vous avez suffisamment. Vous avez suffisamment pour vivre des choses extraordinaires. Et l'encouragement que je voudrais vous donner, c'est va avec le peu de foi que tu as reçu. Parce que c'est bien plus qu'il t'en faut pour faire ce que tu as à faire. Amen. Ah, une autre illustration. C'est un... Oui, j'aime beaucoup... C'est vrai que j'aime beaucoup les Anglais. Mais c'était une... Quand je suis venu au Seigneur, ça commence à faire un certain temps. On va dire dans le début des années 90, c'était une parabole qui était utilisée sur les deux formes de participation. Alors, pour participer à ce repas, ce petit déjeuner anglais, il y a eu deux participants. Le cochon, il a donné sa vie. C'est clair. Il a donné sa vie. Mais la poule... Elle a donné un œuf, puis cote, elle est repartie, elle a continué sa vie. Donc voilà, vous avez tout compris. Donc, vous avez tout compris le type d'engagement qu'à l'époque on nous parlait bien, mais qui est toujours vrai aujourd'hui. C'est toujours vrai aujourd'hui. Si nous donnons notre vie au Seigneur, comment ? Oui. Nous sommes morts à nous-mêmes, c'est clair. Et c'est compliqué, c'est vrai. Mais rappelez-vous qu'à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus tout seuls. Le Seigneur est avec nous. Il nous rend participants, c'est-à-dire qu'il nous qualifie. Inutile de se regarder dans la glace pour dire est-ce que je suis un bon serviteur ou et faire des introspections maladives qui nous découragent. Mais on prend la parole et puis le Seigneur nous surligne des versets, des mots, alléluia, qui sont la vie. Et je vais vous en donner encore deux. Par la grâce vraiment d'un don parfait. Colossiens 1,12. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce n'est pas nous, c'est lui. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Alléluia! Tout ça, c'est dans le petit grain de moutarde. Alléluia! Nous avons suffisamment. Philippiens 1,6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne, 100% bonne, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour de Christ Jésus. Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que dans mes chaînes, comme dans la défense et l'affermissement de l'Évangile, vous participez tous à la même grâce que moi. Amen. Rendu participant, héritier de la même grâce. Et c'est vrai que nos vases, ils sont pas terribles. Hein. Et l'argile, elle a craquelé au cours du temps. Mais le Seigneur se sert des vases qui sont abîmés. Comme d'un vase tout neuf qui sort de la fabrication des vases. Le Seigneur sait dans quel état nous sommes, mais ne nous laisse pas sur le bas-côté comme du rebut. Et puis il dit, j'ai trouvé mieux. Non, celui qui l'a choisi, il l'a choisi. Et nous allons parler maintenant de sa ressemblance, c'est que nous devenons à sa ressemblance. Donc, ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est que tout ça nous parle d'identité, d'une nouvelle identité dans laquelle nous sommes maintenant en Jésus-Christ, rendu participant, ressemblant et appartenant. Donc, 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Lisez ces mots. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses, les plus grandes nous ont été données. Afin que par elle, vous deveniez participants, de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. C'est vraiment dommage. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordée l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. vivre à sa ressemblance. Voilà tout le caractère de Jésus qui vient s'imprimer en nous, qui demande, c'est vrai, notre participation. Hein. Nous disons Amen dans ce que le Seigneur nous demande, parce que nous n'avons pas oublié ce qu'il a fait pour nous, et nous n'avons pas oublié qu'il est à nos côtés pour nous rendre, si c'est persévérant, si c'est pour nous rendre maître de nous-mêmes, charitable, les uns vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Et la vérité présente, donc Pierre nous la rappelait, et il dit, c'est pourquoi, voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses. Pourquoi il est important de lire, de relire ces choses, qu'on les rappelle et qu'on les rappelle. Peut-être vous vous dites, mais c'est toujours la même chose. Pourquoi je relirais 36 fois de Pierre 1, par exemple? Parce que tous les jours, ça va vous parler, et d'une autre façon. Et nous nous rendons compte, c'est vrai, de l'assistance du Seigneur, de son amour, parce qu'il a mis son esprit en nous, nous considérant comme son temple, des fils et des filles, faits à son image. Et le Seigneur, c'est vrai, il va poursuivre son œuvre. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Et à ces moments Il y a ces moments où on sent que la discipline du Seigneur, elle est difficile. Et Hébreux 12, voilà encore un passage. Hébreux 12, verset 6, « Car le Seigneur prend sous sa discipline celui qu'il aime. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Les corrections que vous avez à endurer servent à votre éducation. Supportez-les donc. Elles prouvent que Dieu vous traite en fils. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous étiez dispensé de la correction, qui est le lot de tous les vrais fils, vous ne seriez pas des enfants légitimes et des bâtards. » Ah, c'est difficile à entendre. Et pourtant, une correction comme à des vrais fils. Nos enfants, quand on les aime, on les reprend. On leur met des limites. C'est-à-dire que par rapport à leur âge, par rapport à leur maturité, il n'est pas possible qu'ils fassent tout. Qu'ils prennent la voiture, par exemple. C'est un tout petit exemple. Mais le mot bâtard, par exemple, enfant illégitime, non reconnu, on pourrait dire, mais quel rejet dans la parole de Dieu? Ce sont des mots sévères. Mais il ne faudrait pas oublier la femme adultère que Jésus a relevée, la Samaritaine que le Seigneur a relevée, il lui a révélé son état et les a amenées toutes les deux au pardon. Et chaque enfant, rappelez-vous toujours de ça, chaque enfant a d'abord pris naissance dans le cœur du Père. Avant que les parents décident d'avoir un enfant, chaque enfant, déjà dans le cœur du Père, il vivait. Le Seigneur l'aimait. Et dans tout humain, il y a l'image de Dieu. Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est mis ou c'est pas mis? Dieu nous a fait à sa ressemblance. Dieu a voulu cette ressemblance, c'est vrai. Et le rejet, il est arrivé tout de suite après le péché, après la chute d'Adam et d'Ève. Ils ont été rejetés. Ils ont connu pour la première fois le rejet. Et bien sûr, ça poursuit l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Cette crainte du rejet. Et seulement, on se rappelle aussi que Jésus l'a pourvu à la guérison entière, définitive du rejet par la croix, où nous pouvons devenir enfants de Dieu. Et quelquefois, je dis, mais c'est difficile, parce qu'on s'entête contre Dieu. C'est particulier de s'entêter contre Dieu, de résister à Dieu, de s'endurcir. Parce que notre entêtement ne viendra jamais à bout de l'amour de Dieu. Jamais. Donc si c'était votre cas, plaidez coupable et revenez à lui. Participant et appartenant. De Pierre 1,4, je le relis. Par elle, les promesses les plus précieuses, les plus grandes, nous ont été données, afin que vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La greffe est la bien prise. Notre appartenance n'est plus au monde, elle est au Seigneur. Nous sommes greffés sur cet arbre qui ne périra jamais. Et la greffe est la bien prise. Et comprendre cette greffe, comprendre cette appartenance, quelquefois, il y a cette identité qui, ou cette double identité qui est encore en nous, qui peut nous chahuter. Et lorsque Jésus parlait aux religieux dans Jean 8, il leur disait que leur père, c'était le diable. Là encore, c'est difficile à entendre, parce qu'ils n'étaient pas nés de Dieu. Bien sûr, ils connaissaient beaucoup de choses sur Dieu. Bien sûr, ils avaient une culture religieuse énorme. Mais Jésus leur dit, si vous me connaissiez, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Et le Seigneur ne veut plus que nous appartenions au mensonge. Le diable continue de mentir sur notre identité. Et le Seigneur veut que nous soyons un peuple qui lui appartienne. Comme le peuple hébreu dans le désert, 40 ans durant, où ils voyaient des signes et des miracles. Mais leur cœur s'endurcissait. Et le Seigneur dit, mais non, ils n'entreront pas. Ils n'entreront pas dans la terre promise. À un moment donné, il a dit, cette génération ne rentrera pas. Tite 2,14, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Amen. L'épouse appartient à l'époux et vice-versa. J'ai pas d'amen. Et à l'exemple de Christ et de l'Église, de l'époux et de l'épouse, et c'est une notion d'attachement, d'amour, d'engagement, qui est la plus forte. C'est pour ça que cet exemple est pris, cette appartenance. Et le diable, c'est vrai, un autre discours, qui est un discours d'indépendance et de n'appartient à personne. Avant ma conversion, c'était dans mon cœur, ça. Ça, je le sais. N'appartient à personne, ne fait confiance à personne. ne t'engage pas, reste libre. Mais seul, il y a la conséquence. Et ce discours-là, bien sûr, le Seigneur nous parle aujourd'hui sur ce terme de rendu participant et appartenant, et aussi d'engagement, mais aussi qu'il n'est pas bon de rester seul. Que l'Église, c'est une notion d'appartenance, une notion de rendu participant, mais pas, on n'est pas participant par notre bon vouloir, dans le sens où ce n'est pas comme une association sportive, on va rentrer dans le club pour faire du foot, du volley, je ne sais pas. Ce n'est pas la même chose. Quand on rentre dans l'Église du Seigneur, on devient participant avec lui. Et là, notre cœur est engagé. Ce ne sont plus nos muscles seulement. Et bien sûr, l'Église est un lieu à sa ressemblance. Et ce lieu se construit et doit se construire de plus en plus à sa ressemblance. Et cette appartenance. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. Vous savez, c'est la seule chose que le Seigneur n'a pas trouvée bonne dans le jardin. Que l'homme soit seul. Donc ça veut dire que la solitude n'est pas bonne. Mais aussi que le Seigneur voulait qu'il y ait des femmes. Alléluia! Et un homme seul, ça était perdu. Il ne se suffisait pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est vrai que pourtant, dans nos petites têtes, on peut se dire, mais vraiment, le jardin d'Éden, c'est le top du top quand même, quoi. Et le Seigneur a dit, mais non, c'est pas bon. C'est pas parfaitement bon. Il manque quelque chose. Nous avons besoin d'un vis-à-vis humain. Alors, je parle de la femme, de l'épouse, donc besoin d'un vis-à-vis humain. Et le corps de Christ, l'Église, a été donné par Dieu aux hommes pour vivre cette relation d'appartenance. Ce besoin de vis-à-vis divin aussi. De partager la même chose, d'être encouragé à la rencontre avec le Seigneur, de ce vis-à-vis divin. Et les chrétiens, et je pourrais dire même les non-chrétiens, savent au plus profond d'eux qu'ils ont besoin de relations, d'appartenir à quelqu'un. Il y a ce besoin d'appartenance qui est en nous. Il est normal. Et pourtant, par crainte d'être confronté quelquefois à nos faiblesses, on va fuir. Et nous avons peur d'affronter la relation, le vis-à-vis, même en restant chrétien. Je crois, vous le croyez aussi, que ça, c'est pas normal. Nous avons besoin de vivre quelque chose de différent là-dessus. Et c'est vrai que je suis triste. Parce que ça m'est arrivé quelquefois qu'un ami me dise « Mais je n'ai pas d'amis dans l'église. » Et ça me rend triste. Ça m'interroge, bien sûr. Je ne peux pas tout faire. Mais au plus profond de moi, je dis « Seigneur, viens nous réveiller. Nous avons besoin de vivre quelque chose d'autre. Nous avons mis quelque chose au fond de notre poche. » Un petit grain de foi, peut-être. Un petit grain de foi de savoir que le Seigneur est à nos côtés. Et que là, moi je trouve que ce n'est pas possible. Lui est avec moi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Alors nous allons terminer là. Et par rapport à ce grain de moutarde, il y a un autre endroit où il est parlé d'un grain de moutarde. Et c'est dans, je ne sais plus si je vous l'ai mis, voilà. Dans Luc 13, verset 18, il dit encore, « À quoi le royaume de Dieu est-il semblable ? Et à quoi le comparais-je ? Il est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse et devient un arbre, et les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. » Alors, je ne sais pas si je vais retrouver mon petit grain de moutarde au fond de mon... Oui, parce que là, il va être un peu trop dur. Mais le petit grain de moutarde, peut-être que je vais prendre une double portion. Vous êtes d'accord que je prenne une double portion ? Et ce petit grain de moutarde, vous savez que le Seigneur est un Dieu d'abondance. Et quand on va semer ce petit grain de moutarde, il est parlé d'un arbre qui va pousser. Donc aujourd'hui, c'est pas, on pourrait dire que c'est un arbuste pour les variétés les plus grandes, parce que dans nos jardins, elles sont plutôt assez petites. Mais de toute manière, le grain de moutarde va germer, il va grandir, il va devenir un arbuste, il va devenir une fleur, et sur cet arbuste, il va y avoir des graines. Mais pas qu'une, une multitude de graines. Et pensez à cette abondance d'un petit geste qu'on peut faire les uns et les autres, que le Seigneur nous inspire, de dire « Seigneur, c'est dur ». Mais pensez à ce petit geste de dire, par la foi, Seigneur, je vais y aller. Par la foi, je ne vais pas rester dans mon coin. Et ce petit grain, avec la grâce du Seigneur, peut devenir une multitude. Amen. Parce que ce petit grain est semé. Et comme j'ai pu semer aujourd'hui, j'espère des grains de foi dans vos cœurs, des graines d'encouragement. Nous allons prier pour que le Seigneur fasse grandir ces graines dans nos cœurs et qu'il les fortifie. C'est vrai que dans la nature, il y a des tas d'exemples. Mais le rendu participant, ça veut dire que vraiment, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec nous. Et qu'il dispose autour de nous ce qui est nécessaire, bien sûr, à notre croissance, mais à la croissance de ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont avec nous, déjà appartenant au Seigneur, mais tous ceux, et ils sont nombreux, que nous côtoyons toute la semaine et qui n'appartiennent pas au Seigneur. Amen, Seigneur. Te bénissons pour ce si grand privilège, Seigneur. Seigneur, que nous avons de t'appartenir. Et tu nous as rendus participants. Tu as changé notre identité, Seigneur. Nous sommes des fils et des filles, Seigneur. Ah, Seigneur, merci de le rappeler dans nos cœurs, Seigneur. Nous sommes des gens ordinaires, Seigneur, mais au service d'un Dieu extraordinaire. Tu es là avec nous chaque jour, Seigneur. Merci de nous encourager les uns les autres. Cette journée, tous les jours qui vont suivre, Seigneur. Que tu as mis en nous quelque chose qui est plus précieux que tout ce qui est sur la terre. Tu as mis la foi dans notre cœur, Seigneur. Seigneur, nous voulons aller par la foi. Aller par la foi. Ne plus avoir peur. Nous voulons plus avoir peur des mensonges du diable. Mais Seigneur, écoutez seulement ta parole qui nous envoie, qui sème autour de nous. Seigneur, fais-nous grâce encore. Fais grâce à cette église, fais grâce à l'église dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, nous sommes si peu, mais nous avons tout. Ô Seigneur, ce jour de Pentecôte, oui, réveille-nous. Secoue-nous, Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen.